je vois l'homme au complet.
Mais c'est bien. Je suis au complet.
Tu habites où, là? Tu es à la campagne? Je vais te saluer, Jean-Paul Lafrance, éminent penseur de la communication. Merci d'être avec nous. Et tu as aussi été un des fondateurs, je pense, de la faculté de communication à l'UQAM. Est-ce que je me trompe?
Tu ne tombes pas, et même de l'Université du Québec. Je suis rentré à l'Université du Québec à peu près 15 jours avant le début officiel. Et je suis arrivé en disant, moi, ce qui m'intéresse, je veux faire de la communication. La plupart ont dit, il est fou, mais en tout cas, bon, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et finalement, j'ai fait ça pendant 35 ans.
Mais Jean-Paul, la France, quelle était l'ambiance à l'époque où tu es rentré, où l'Université du Québec a commencé? Est-ce que c'était aussi contestataire et à gauche, marxien, on pourrait dire, que ce l'est aujourd'hui? Ce l'était plus, peut-être?
Oui, ça l'était vraiment beaucoup plus. Il faut donner le contexte de la création de l'Université du Québec. Au tout début, on était en pleine révolution. Et alors, tu sais comment est-ce que ça s'est fait, c'est-à-dire que finalement, les hommes politiques avaient peur que les étudiants se lient aux travailleurs et qu'ils fassent un mix assez explosif. Il faut penser que ça a été créé en 1969-70. C'est qu'est-ce que c'est la crise d'octobre, des choses comme ça. Alors, ils ont dit, donc, dépêchez-vous à faire entrer les étudiants dans une université. Nous autres, on faisait les farces avec ça en disant, quel est notre but? Donc, c'est tout simplement d'encadrer les étudiants.
Donc, au départ, c'était un moyen pour contrôler un peu les étudiants, c'est ça?
Ah oui, mais ça avait été dit...
Incroyable, bon. Donc, tu es en train de nous dire, Jean-Paul Lafrance, que c'était un projet pour essayer de contrôler les débordements étudiants, un peu comme lorsque Paris 8 a été déménagé du bois de Vincennes et relocalisé ailleurs par l'État français, c'est le même genre.
Exactement, et c'était très, très clair. C'était pas, on cachait pas l'histoire. On disait, bon, il faut rentrer plus rapidement possible les étudiants, les encadre. Parce qu'une structure universitaire, ce n'est pas une structure révolutionnaire. Alors, je suis rentré dans cette atmosphère-là quand nous, la plupart des professeurs étaient des tout jeunes professeurs. Moi, je sortais de Paris avec un doctorat. J'étais sûrement pas plus avancé en âge que nos étudiants.
Et tu arrivais de Paris 8 aussi, c'est bien ça?
Oh, exactement.
Voilà, exactement.
Et même ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait mon doctorat à Paris 8, finalement, avec Ricoeur. Pourquoi à Paris 8? Parce que lui venait d'être nommé recteur, puis il disait qu'il faudrait bien commencer par quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai présenté mon doctorat là. Alors, on était un peu, donc, au tout début. Moi, je me rappelle, au début, à chaque matin, quand on rentrait, on avait un sitting devant notre porte. On était obligé de fonctionner comme ça. Bon, moi, je connaissais ça, j'étais pas énervé à cause de ça. On essayait de faire le mieux. Il faut penser que, par exemple, plusieurs de nos étudiants étaient très impliqués dans la crise d'octobre. Mm-hmm. On le savait. On ne disait pas un mot, c'est tout. Moi, je me rappelle d'avoir, comme on avait les clés, nous, je me rappelle d'avoir ouvert une porte et il y avait tout simplement des gens qui faisaient des dracs. Hein?
OK, ça,
Alors,
c'était le
moi,
genre d'implication qu'ils avaient. Ils n'étaient pas impliqués nécessairement directement avec le FLQ, mais en faisant des tracts, en essayant de
quoique
sensibiliser. Oui.
il y en avait un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé qu'est-ce que vous faites? Bon, j'ai refermé la porte. Je suis parti.
Aujourd'hui, il y a des professeurs qui diraient, je vais vous aider, hein? Mais le monde est plus sage déjà. Donc, on ne s'attardera pas parce qu'on pourrait parler pendant des heures sur les transformations qui ont eu lieu depuis 1970 à l'UQAM. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais je pense que juste ça serait un magnifique sujet d'émission. On est ici pour parler de ton dernier livre, qui est ton énième livre. Je ne sais pas si c'est le dixième ou le douzième ou le.
Oh non, plutôt le 25e, mais en
OK,
tout
ouais, pardon, excuse-moi.
Oui, non, mais c'est parce qu'on écrit aussi des livres en partie.
Collectif.
On nous demande de faire des chapitres, mais je suis sûrement rendu à 25 livres.
Mais dans les livres solo, disons, ce serait ton 5, 6, 7e cycle.
Je les ai comptés à peu près. Je suis maintenant rendu à 23 livres solo.
Incroyable. Alors, c'est plus que 25 probablement, en incluant les livres collectifs.
Oui.
Écoute, bravo, Jean-Paul Lafrance. C'est une œuvre impressionnante. Et là, tu écris sur un sujet brûlant d'actualité, un livre qui s'appelle Malaise dans la civilisation numérique, sous l'angle de l'économie, de l'anthropologie et de la philosophie, paru chez L'Harmattan à Paris, qui est une maison d'édition assez connue dans le milieu académique. Peux-tu nous parler de l'origine de ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre à ce point critique de la culture et de la société numérique, si on veut l'appeler comme ça.
Il faut dire que je m'intéressais beaucoup au numérique depuis deux, trois livres. Les deux, trois derniers livres avaient porté sur le phénomène. Ça, c'est un livre un peu synthèse parce que j'ai fait 35 ans de communication dans les programmes de communication. Alors, c'est une espèce de synthèse de mes réflexions sur le numérique. Et ce qui est important, ce n'est pas de l'informatique, c'est de la civilisation numérique, c'est-à-dire tout le phénomène de l'application de l'informatique aux comportements sociopolitiques, le reste. Et c'est pour ça que le titre est important, de la civilisation numérique. Mais
Est-ce que c'est une civilisation qui est vouée à durer, ou est-ce que c'est une civilisation, ou est-ce que le numérique serait plutôt comme un mode de passage d'une civilisation à une autre?
non, moi je crois pas. Je crois qu'il s'agit véritablement d'une révolution numérique, c'est-à-dire que on est comme le troisième ou la quatrième révolution. Il faut penser, et je pourrais te donner ce qui me fait dire cela, c'est-à-dire que l'informatique a imprégné d'une façon fondamentale la civilisation, c'est-à-dire tous les comportements que l'on a à l'heure actuelle, que ce soit quand on achète des choses, quand on communique, quand on fait ce qu'on appelle la conversation sur Facebook, tout a été changé. Et de plus en plus, il n'y a plus un seul système qui n'est pas frappé par cette révolution. Donc, c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas juste un passage vers. Ben, c'est un passage vers d'autres choses parce que la civilisation change tout le temps. Ce n'est pas fixe. Une civilisation, ce n'est pas quelque chose de fixe. Mais ce n'est pas juste une mode, si je peux m'exprimer ainsi.
Et le livre est divisé en parties. J'ai trouvé assez fascinant, en fait, tout ce que j'ai lu, mais j'ai trouvé aussi intéressant de faire des parallèles avec des lectures que j'ai pu faire avant. Par exemple, Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, qui est le petit traité sur le marché de l'attention, ou le livre de Matthew Crawford qui s'appelle Contact, comment nous avons perdu contact avec le monde et comment le retrouver. Et ce sont des livres, en fait, qui parlent de l'économie de l'attention, ce qui est une partie importante de ton livre, en plus d'aborder de manière plus générale le capitalisme informationnel et cognitif. Peux-tu un peu nous parler de ce champ de recherche-là et de ce que tu présentes dans ce livre?
Donc, c'est très important parce que ce n'est pas seulement une civilisation, c'est une économie. L'économie devient numérique. Hein? La preuve, c'est la façon de faire de l'argent maintenant, c'est d'entrer dans cette révolution-là. Il s'agit de regarder la richesse de ce que l'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire les grands qui maintenant, Microsoft, Apple, bon,
Google,
Google,
Facebook
Facebook et le reste, c'est
et les
limité.
BAT chinoises aussi. Tu dis les BAT
C'est
chinoises.
ça, c'est ça,
C'est quoi les
exactement.
BAT, les BAT, BAT chinoises?
Oui. Ben, ils sont en train de recopier le modèle occidental, c'est-à-dire que, bon, ils ont leur Facebook, ils ont leur commerce électronique, ils ont, bon, et reste, les BAT que l'on appelle Tencent, par exemple. Bon, voilà. Alors donc, c'est premièrement une économie qui est la façon de faire de l'argent maintenant. C'est d'entrer dans le modèle informatique, si on peut dire, entrer dans le modèle numérique. Alors ça, c'est très important à dire. C'est pour ça que c'est la preuve, comme on disait, tous ces grands écosystèmes, comme on dit, appartiennent à des gens qui ne sont pas millionnaires, qui ne sont pas milliardaires, qui sont multimilliardaires et qui sont ce qui est un des phénomènes et qui ne payent pratiquement pas d'impôts, sont donc à peu près exempts d'impôts par leur façon de procéder parce qu'ils travaillent sur le numérique. Le numérique, ça passe les frontières. Je veux dire, c'est beau avoir une frontière entre les États-Unis et le Canada, mais ça passe à travers. Évidemment, rien n'arrête les données informatiques de circuler d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont difficilement arrêtables. Et dès le début, ils se sont dit, c'est les gouvernements ne sont pas impliqués dans ce système-là. Pourquoi? Parce que nous demandons rien au gouvernement, si on peut dire ainsi. Nous fonctionnons comme tel. Et là, en ce moment, il y a un réveil. Mais c'est extrêmement difficile. Le Canada n'a pas réussi encore à avoir un seul sou des autres.
Et traditionnellement, les gens d'affaires ou les personnes issues de milieux assez riches, très riches et aisés, ont eu, même avant la révolution numérique, des manières de se sauver du fisc et de l'impôt, hein, avec toutes sortes de types d'opérations, souvent même légales, qui pouvaient se faire en termes d'immobilier, d'argent qui se fait nettoyer. Ça, ce sont des vieux systèmes quand même qui fonctionnaient d'une certaine manière à l'époque avec des banques qu'on dit offshore, donc des banques, enfin des paradis fiscaux, comme on dit en français, aux îles Caïmans ou ailleurs, dans les Antilles, il y en a un peu partout dans le monde. Ça repasse par la City de Londres. Mais qu'est-ce que la civilisation numérique a apporté à ces personnes qui pratiquent l'escampette fiscale? Qu'est-ce que ça leur a apporté de plus, cette civilisation numérique?
Bien, ça leur a apporté le fait que, pour donner des exemples très précis, des compagnies comme Apple, à travers le monde, peuvent payer de 4 à 5 % d'impôts Alors qu'une compagnie normale paye, selon les pays, 15%, 20%, 30%. Alors, et comment font-ils? Je vais donner juste un exemple au Canada, comme par exemple Amazon a besoin d'entrepôts parce que lui, il livre de la marchandise. Alors, il a dit au Canada, il me faut un entrepôt. Et il dit au gouvernement, alors toutes les villes, Montréal et Toronto et je ne sais pas trop quoi, se garrochent littéralement parce que la compagnie dit, moi, je vais engager 1 000 personnes. Alors, qui est intéressé d'avoir en banlieue de chez lui 1 000 nouveaux? Alors, là, il se donne, évidemment, il n'est pas fou, hein? Il se dit, ben, c'est à condition que moi, je paie 4% d'impôts. C'est comme ça que ça se fait, tout simplement. Et c'est en train de se négocier à l'heure actuelle. Ben, ils ne vont pas le dire comme tel, mais il s'agit de voir que nous n'avons pas eu l'entrepôt en question. Je pense que c'est Toronto, quelque chose comme ça qu'il a eu là. Mais c'est comme ça que, par exemple, l'Irlande a fait toute sa richesse parce que, en fait, il devient un endroit où l'entreprise, par exemple, Apple, fait transiter ses profits et a des taux absolument extraordinaires, je pense, de l'ordre de 4% ou autour de ça. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et en fait, quelle entreprise à travers le monde paye 4% d'impôts?
Mais en fait, Jean-Paul, la France, ce que vous nous dites, c'est que les règles du jeu n'ont pas nécessairement changé en termes de procédure, parce que c'était à peu près ce que les grosses corporations faisaient avant la révolution numérique, avant que le numérique arrive. La différence, c'est que maintenant, il y a des entreprises qui, avec le numérique, font tellement de profits qu'ils ont un poids politique énorme pour convaincre les gouvernements d'être soustraits d'impôts, quoi.
Ben oui. Alors, c'est, par exemple, le Canada est un bon exemple, comment j'appellerais ça, d'un manque de courage pour appliquer ce type de truc-là. D'ailleurs, je ne me rappelle pas quelle était la compagnie qui avait offert 500 millions en disant, ben moi, je ne ferai pas d'impôts, là, je vous donne 500 millions. Sauf que le 500 millions, c'est quel le pourcentage de l'argent qu'ils font? Il faudrait voir.
Mais quelle serait la solution, Jean-Paul? La France, ce serait qu'un État mette ses culottes et dise à une compagnie, si vous voulez vous installer sur notre territoire national, vous devez au moins payer un certain montant d'impôts ou une certaine redevance. Mais
C'est bien
évidemment.
sûr l'exemple qui se passe à l'heure actuelle. Pas au Canada, mais en Europe, c'est que un certain nombre de compagnies importantes et de pays importants comme la France, le Royaume-Uni, l'Australie, et il y en a à peu près un dixième de ces compagnies-là qui disent on passe des règlements. Et c'est parce que c'est difficile. Comment ils vont faire pour taxer? Ils vont taxer quoi? Alors, ils ont décidé de faire un pourcentage. Il me semble que c'est 15%. Hein? 15% de ce que vous déclarez comme profit, on va le taxer. Et comme
Revenu très
c'est des
important.
pays importants, ils sont capables de le faire. Le Canada, c'est le petit chien-chien en arrière qui dit. Faites ça pour que nous, on puisse le faire. Et par exemple, ils n'ont pas réussi à passer un règlement avant les élections. Ils avaient un beau règlement, hein, mais ils n'ont pas été capables de le passer parce que, bon, voilà.
Alors Jean-Paul, la France dans ce livre dont on discute présentement, Malaise dans la civilisation numérique, paru cette année chez l'Harmattan, on a discuté en fait de la première partie du livre à date, mais il y a quatre parties à ce livre. Et les parties suivantes, c'est surtout sur solutions. Ben, en fait, les parties 2 et 3, c'est des solutions à apporter. La troisième partie s'appelle même « De la nécessité d'une révolution », ce qui n'est pas rien. Alors, quelle serait cette révolution à faire, selon vous, Jean-Paul Lafrance?
La partie, par exemple, numéro 2, concerne le travail.
Oui.
Bon, et ça, c'est extrêmement important. Quel est le phénomène qui se passe à l'heure actuelle? C'est tout simplement que, finalement, on supprime de plus en plus des emplois. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la grande révolution de l'automatisation. Parce qu'une des caractéristiques de la révolution numérique, c'est le fait qu'elle offre ou elle délivre, si on appelle un mot anglais, elle délivre des services. Elle a les moyens maintenant par le numérique d'automatiser et de supprimer des emplois. Je vais vous donner par exemple en page 126, 75% les métiers qui, dans un avenir prochain, très prochain, vont être supprimés, vont disparaître. Comme, par exemple, vendeur au détail, comptable, perception d'impôts, camionneur, chauffeur, taxi, pêcheur. Bon, il y en a une bonne quantité, 25-30, qui vont disparaître simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des machines et des opérateurs de machines. Et quels sont les métiers? Tous les métiers ne sont pas à disparaître. Quels sont les métiers qui ont 2 % de risque de disparaître? Travailleurs sociaux, psychologues, médecins, dentistes. Bon, il reste le reste. Et il y en a au moins une quinzaine parce que ça concerne l'humain. Qui va demander à un psychologue mécanicien, si je peux m'exprimer ainsi, quand il a un problème. Bon, voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est extraordinaire. Le problème, c'est, ça concerne quoi? Tous les gens qui n'auront pas de formation pour être capables de diriger les machines, si je peux m'exprimer, vont être sur le chômage. Et donc, en ce moment, on est en pénurie d'emplois. Quelle est la solution? C'est d'engager n'importe qui. C'est pas vrai. Les compagnies sont obligées d'avoir tout de même des gens qui ont une certaine formation, mais en tout cas, ça pose des problèmes et ça va en poser de plus en plus. Donc, il va y avoir de moins en moins de jobs.
Est-ce que ça ne va pas créer, Jean-Paul Lafrance, une société de consommateurs, en fait, qui seront des consommateurs soit actifs, soit passifs, mais puisqu'on aura de plus en plus de temps de loisirs, ce ne sera pas cette fameuse société du loisir dont on nous parlait il y a 50 ans avec une réduction du temps de travail, beaucoup de temps pour soi. Est-ce que vous pensez que cette révolution numérique qui semble inévitable pourrait, si elle est bien menée, mener à une société du loisir qui serait ce que Honnête appellerait, correspondrait à ce que Honnête appellerait une vie bonne, ou est-ce que cette société du loisir, de toute façon, est peut-être vouée à l'échec sur le plan ontologique, sur le plan moral?
On la voit venir, cette société, et il y a des livres qui ont été écrits sur ça. On parle d'une société de sans-emploi. Mais il faut dire ceci qui est très important, c'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises délèguent à l'individu les choses qui autrefois faisaient lui-même. Prenons un exemple classique. Autrefois, j'allais à la banque, je déposais mon chèque et j'allais à la banque et il y avait quelqu'un qui me donnait de l'argent, c'est clair et net qu'en ce moment, quand est-ce que je vais à la banque? Je vais à la banque une fois, deux fois ou trois fois par année. C'est donc mon ouvrage à moi. On m'a délégué le fait que j'administre mon argent. Deuxièmement, La médecine, je vais prendre un autre exemple, la médecine me dit de plus en plus, c'est à toi d'améliorer ta santé. On pourrait dire que finalement, on a besoin de plus en plus de temps pour faire le marché, pour courir, pour avoir une meilleure santé, pour gérer mon argent, pour ceci, pour cela. Moi, ce que je prévois là-dedans, c'est que là, on travaille 5 jours par semaine, on arrive très, très bientôt à travailler 4 jours par semaine, et plus tard, et dans peu de temps, on baissera à 3 jours ou à 2 jours. Le reste, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien là, on se gratte la tête et on ne fout rien, ou bien là, on fait du bricolage, on fait de l'exercice physique, on développe notre créativité. L'industrie nous donne toute une série d'outils de travail pour faire leur job. Qui autrefois le faisait. Donc, c'est toute la nouvelle philosophie de travail, c'est de dire il faut absolument que les individus prennent en charge, et ils seront bien obligés de le faire, prennent en charge finalement leur vie, le commerce, s'ils le sont. Mais il faut une formation. Il faut que les individus soient formés pour ça. C'est pour ça que la grande importance, c'est de pousser les gens à être plus compétents et ne pas, ben, par exemple, c'est la même chose dans les restaurants ou dans les magasins. Essayez donc de vous trouver un vendeur dans un magasin. Maintenant, il n'y en a plus. Ben ça fait partie de ces jobs qui ont disparu.
Qui sont en train de disparaître.
C'est à vous de vous en occuper.
Alors, Jean-Paul, la France de la nécessité d'une révolution, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire parce que le virage numérique est inévitable? Le processus que vous décrivez est en cours. On peut difficilement le renverser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder la vie bonne, une bonne vie, une vie décente, une vie morale comme citoyen dans la civilisation numérique?
Je veux dire, pour faire un peu une blague, ce qu'on peut faire, on peut se laisser aller parce que je pense que les entreprises vont nous obliger à prendre soin de notre vie. Et c'est pour ça que la troisième partie, qui est important, je crois, dans mon livre, c'est une nouvelle philosophie du travail. Pour que cette révolution-là se fasse, il faut que les individus soient impliqués et soient capables d'accompagner par une révolution personnelle à l'intérieur de ça. C'est extrêmement important, ceci. Et voilà pourquoi je me suis beaucoup intéressé à un certain nombre d'auteurs ou à un certain nombre de grandes civilisations pour voir ce qui s'est passé. Par exemple, si on retourne à la vieille civilisation gréco-romaine de l'époque, leur définition de la philosophie, ce n'est pas des grands systèmes. Il faut que l'on change. Par exemple, donnons un exemple. De plus en plus, ce que l'on dit, c'est que rien ne se fera si les individus ne changent pas leur comportement. Et par exemple, les Grecs, Platon, Socrate et tous ces gens, ce ne sont pas des gens qui font des grands systèmes théoriques, des espèces je pourrais dire, d'édifices théoriques extraordinaires. Le but principal chez Platon, chez Socrate, c'est de transformer l'homme, hein, de transformer les passions humaines. Il y en a d'autres qui ont déjà pensé à ça. Moi, je me suis un peu intéressé à la civilisation, parce qu'il faut vraiment parler d'une civilisation bouddhiste qui, la même chose, ce n'est pas d'ailleurs une religion, à mon avis, c'est une philosophie évolutive qui demande aux hommes de contrôler leur passion. Par exemple, dans la voiture, pour qu'il y ait des changements vraiment importants, il va falloir changer notre comportement. Ce n'est pas seulement de dire on va avoir maintenant des voitures automatiques et le reste. Quand on passe dans une ville et commence à voir des exemples, quand on passe dans une ville, au moins la ville centrale, le centre de la ville, en interdisant pratiquement l'automobile, en la remplaçant par les vélos ou d'autres systèmes, c'est des comportements. Pour beaucoup de gens, c'est un scandale de faire ça. La voiture, j'ai le droit, moi, d'avoir une voiture. Hein? Quand je vais m'acheter une voiture, ça ne m'arrive pas souvent. Donc, ce que je veux, c'est que je puisse me promener avec cette voiture. Alors, c'est donc un changement de comportement. Si on commence à dire d'une façon importante aux gens, si cette révolution politique n'est pas accompagnée d'une révolution personnelle, puis on pourrait nommer beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, elle ne se fera pas.
C'est intéressant, Jean-Paul Lafrance, parce que ce que vous me dites me rappelle, entre autres, ce que le philosophe Gilbert Simondon disait sur le rapport qu'on a avec la technique, qu'en fait, on est dans une société qu'il appelait « mal technicienne », parce que les personnes, les citoyens, les gens ne comprennent pas le lien qui existe entre eux, les objets techniques qu'ils utilisent et le monde. Et qu'une révolution, justement, culturelle serait d'enseigner, ce sera même le système d'éducation, d'enseigner dès le plus jeune âge aux gens quel est la véritable conséquence d'utiliser des objets techniques dans notre rapport au monde. Et c'est un peu ça que vous nous dites, en fait. Dans un sens, ce serait une des options qui s'offrirait au problème que vous décrivez, en fait.
Oui. Oui, oui. Et je crois qu'on en vient là, de plus en plus, parce que même ceux qui travaillent dans l'environnement disent... Et il y a une nouvelle tendance chez les jeunes, par exemple, qui sont capables de comprendre cela, qui, par exemple... ne savent même pas conduire, se promènent en vélo, se promènent en... Et parce qu'ils comprennent que, évidemment, c'est pas parce qu'on va avoir des voitures électriques que finalement on aura réglé le problème. On aura réglé le problème en ce sens qu'il va falloir faire en sorte de faire disparaître toute une série de... Il va falloir, par exemple, faire en sorte que notre occupation de l'espace est en ce moment une occupation pour les voitures, pour faire passer les voitures partout. Alors qu'il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin que ça, de supprimer dans la mesure du possible, évidemment, mais il y a des pays comme le Danemark qui sont très avancés là-dedans, à l'intérieur de leur ville, de voir des villes où finalement le moyen de transport par excellence, c'est soit le transport public, soit le transport par vélo ou autrement.
C'est une chose qu'on observe à Paris aussi, et même à New York dans une certaine mesure où c'est moins avancé que Paris, mais des villes où il y a des systèmes de transport public assez élaborés et aussi un aspect, on pourrait dire, pénible du fait de se promener en voiture qui décourage les gens d'utiliser la voiture et qui prennent les transports publics qui sont déjà fonctionnels. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas à Montréal. On a des transports publics fonctionnels, mais qui ne sont peut-être pas aussi efficaces que ceux qu'on retrouve dans les villes que je viens de mentionner. Il faut que chaque ville aussi prenne le taureau par les cornes et développe des transports publics qui encouragent justement les gens à les prendre et à laisser de côté la voiture. Mais là, on s'éloigne un petit peu de la civilisation numérique dans la mesure où dans votre livre, Jean-Paul Lafrance, là, on a parlé de la nécessité de la révolution intérieure. Et la quatrième partie, avant la conclusion, c'est les dérives du transhumanisme et la tentation de l'homme à devenir Dieu. Alors, on vient de mentionner justement l'importance de l'éducation technique et l'importance de comprendre quel est notre rapport au monde à travers des objets techniques, particulièrement dans la civilisation numérique. Mais là, dans cette section, on parle des dérives du transhumanisme. Donc, quand on parle de société mal technicienne, là, on pourrait y revenir justement, puisque la tentation de se voir comme un Dieu tout-puissant et créateur dans un monde où on a d'ailleurs délaissé les religions et les croyances en un Dieu extérieur, sont attisées par cette disponibilité de différents modes d'usage de la technique dans le monde numérique. Pouvez-vous nous parler un peu de de ce danger? Comment vous le concevez, ce danger?
Par exemple, quand on interroge le transhumanisme, ou même pire encore, le post-humanisme, ce qu'ils veulent faire, cette espèce de vision, on veut tuer la mort. D'ailleurs, c'est le fait de livres qui sont faits à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette espèce de formidable volonté de se lier à la machine, que à la limite, il faudrait se débarrasser de notre corps qui est souvent malade, qui n'est pas très performant, à il faudrait conserver notre cerveau et qu'on puisse le lier à la machine. Ça m'apparaît le maximum qu'on peut aller. De croire que l'on va arriver à lier la machine, le cerveau humain à la machine. Ça, ben, je voyais déjà dans le journal d'hier, je pense, un savant, entre guillemets, qui disait mon système d'intelligence artificielle, d'ailleurs, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est le mot intelligence artificielle. L'intelligence ne peut pas être artificielle. Bon, en tout cas, allons-y, prenons les termes. Lui, il disait, mon système d'intelligence artificielle est au niveau d'un jeune de 8 ans. Et alors que c'est clair et net que c'est vraiment mal comprendre quelle est la nature même du cerveau. Le cerveau, ce n'est pas un ordinateur qui fonctionne en dehors de son environnement. Il est constamment alimenté par les sens. Alors, enlever le cerveau de son rapport au corps, c'est le tuer, tout simplement.
Bien sûr, parce que le
Or,
rapport au monde est complètement différent en ce moment-là, s'il n'y a plus de corps et le cerveau est en fait conçu, on pourrait dire, tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, pour avoir un rapport au monde extérieur à travers le corps, bien sûr.
oui, et il faut bien s'apercevoir que le cerveau change constamment à cause des sens qui lui donnent une autre dimension complète. Alors moi, j'ai tendance à dire en me moquant dans le livre que prenez un cerveau, coupez-le des sens et ajustez-le à une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va rejeter assez rapidement ce cerveau qui est même plus capable de s'adapter à l'environnement. C'est une technique qui peut être très avancée au niveau, par exemple, on a parlé tantôt de la mécanisation de nos opérations. Ça, elle est capable de faire ça. Elle est capable d'aller très, très loin.
Jean-Paul
Voilà.
Lafrance, pour terminer, est-ce que vous êtes quand même optimiste, malgré tout?
Ouais, ben, je veux dire, oui, moi je suis optimiste parce que où l'homme ne mérite pas de vivre, hein, où l'homme ne mérite pas de vivre, ou bien là, il va être obligé de s'adapter. Je veux dire, nos parents, moi qui ai un certain âge, nos parents, qu'est-ce qu'ils avaient comme technologie à l'époque? Ils se promenaient en cheval. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas ci, ils n'avaient pas ça. Ils se sont adaptés. Ils ont réussi à vivre normalement. Je pense que nous allons être obligés de faire cela. S'il y a des résistances en ce moment, c'est clair qu'il y en a des résistances et il y a des gens qui ne sont jamais capables de s'adapter. Mais en tout cas, c'est une petite partie des gens qui... Et c'est ça qui est l'intelligence. C'est un formidable système d'adaptation.
Merci infiniment, Jean-Paul Lafrance, pour cet entretien et ce livre « Malaise dans la civilisation numérique » paru chez L'Harmattan, un livre qui est très accessible. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce que vous êtes un universitaire, mais ce n'est pas écrit de manière universitaire ou compliquée, c'est écrit d'une manière très simple. Je dirais que la plupart des gens peuvent très facilement lire ce livre sans problème. Je pense que c'est un choix que vous avez fait aussi d'écrire de manière limpide, simple et d'expliquer les choses avec des mots du quotidien. Vous n'avez pas pris des concepts d'édifices philosophiques postmodernes comme ce que vous avez décrit plus tôt pour nous en parler. Ou quand vous les utilisez, ces concepts-là, vous les expliquez très, très bien, très simplement. Alors, bravo pour ce livre et merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Avez-vous quelque chose à ajouter peut-être pour terminer avant de quitter?
Moi, j'ai fait beaucoup de livres dits scientifiques. Et que c'est qu'un scientifique? On parle à des collègues, finalement. Alors que là, je me suis dit, comme je suis maintenant libre de mon travail, je me suis dit, aussitôt que j'emploie un concept qui est nouveau pour la plupart des gens, j'ai un bas de page pour dire ceci veut dire ta 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 ta. Et mon rapport, par exemple, à la philosophie, je considère que, par exemple, il y a des grandes avancées en philosophie. Prenons un exemple, Descartes. Je donne la citation, mais je l'explique de long en large pour être sûr que les gens comprennent bien que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Descartes qu'ils ne soient pas rebutés par ça. Je l'explique. Et alors voilà, oui, c'est vraiment un livre que j'aimerais bien que les gens puissent, qui sont obligés d'évoluer dans ce nouveau complexe civilisationnel, puissent avoir un certain nombre d'informations pour voir comment ils peuvent agir, comment ils peuvent se développer, comment ils peuvent s'adapter. Le cerveau est un formidable, et les sens aussi, sont des formidables machines adaptatives.
Merci beaucoup, Jean-Paul Lafrance, et on attend avec impatience le prochain livre, mais en attendant, on a ce livre à dévorer, parce que ça se lit même bien comme lecture d'été, je dirais.
À la prochaine.
À la prochaine.
Thank you. De plus en plus bas, jusqu'au centre de la Terre, au centre de la Lune, au centre de laquelle il y a la Terre.
Zhu Yu est un artiste qui habite la République populaire de Chine. Il est probablement l'un des acteurs de l'art actuel les plus radicaux et il crée des œuvres qu'on pourrait considérer comme peut-être les plus violentes jamais réalisées dans l'histoire de l'art, du moins ce qu'on connaît de cette histoire de l'art. Ses premières actions comportaient l'utilisation d'organes humains comme principaux matériaux. Et à partir de 1999, Zhu Yu s'intéresse aussi à la technologie d'avortement pour utiliser ou récupérer des embryons dont il va faire le matériau principal de ses actions. Durant l'entrevue qui va suivre avec des extraits en fait d'une œuvre de Zhu Yu, on va tourner autour de cette performance-là pendant une heure. Durant l'entrevue qui suit, je discuterai avec Zhu Yu principalement de cette œuvre qui s'appelle Sacrifice et que je vous décris dans quelques instants. Mais je vais aussi citer d'autres de ses œuvres, entre autres Brain Manufacture, qui a été créé, je crois, vers 98 ou 99, et qui consiste en fait à la présentation de cerveaux humains dans des pots sur les rayons d'un grand magasin à Beijing, le supermarché. Donc, finalement, avec l'étiquette cervelle humaine, comme si c'était évidemment une marchandise destinée à la consommation humaine. En l'an 2000, Zhu Yu va créer une œuvre qui va faire le tour du monde, beaucoup de bruit, qui va coûter même cher à Channel 4, parce que Channel 4 va se faire vandaliser ses studios à Londres suite à la diffusion de photographies de cette œuvre. Dans Eating People, Zhu Yu se procure un embryon, presque un bébé, mais un embryon tout de même, qui a été avorté d'une clinique et va le faire cuire chez lui dans sa maison pour en manger un morceau. La photographie va faire le tour du monde. On va la retrouver sur des sites gore comme Rotten.com où on va prétendre qu'on sert ce genre de mets à des gens très riches à Taïwan. Le gouvernement de la Chine devra se défendre. La CIA devra faire une enquête, l'Interpol aussi, pour finalement découvrir qu'il s'agit d'une performance d'un artiste qui s'appelle Zhu Yu. Et enfin, dans Sacrifice, une œuvre dont on parle peu, Zhu Yu va pousser encore plus loin le machiavélisme, la cruauté et la violence. Il va rencontrer des femmes de différentes conditions sociales pour essayer de convaincre une de ces femmes de devenir sa collaboratrice dans le projet suivant, créer un enfant, l'avorter après 2 mois et l'offrir à un chien comme repas. Cette pièce, donc, va être le sujet de l'heure qui suit. Ça a été réalisé avec la complicité de 2 interprètes qui m'ont aidé à traduire du chinois à l'anglais, Qi Yang et Francesca Jordan. J'ai réalisé ces entrevues l'année dernière, en fait, ça fait 1 an presque jour pour jour, à Beijing. Et je mettrai les travaux de Zhu Yu en parallèle aussi avec l'une de mes performances. Je vous dis ça pour vous permettre de comprendre ce qui va se passer durant l'entrevue. Donc, l'une de mes performances commencée en 1997 et qui se poursuit toujours, et ce pour d'ailleurs une durée de 460 ans, tant que va durer la demi-vie de la matière radioactive que j'y ai utilisée. Les titres de ces 2 performances sont 3-9-30 et l'autre, c'est Buisson ardent, où donc j'utilise une matière radioactive afin de modifier la structure moléculaire de certains objets. Zhu Yu est mon ami, en fait, certes, mais je tiens à vous dire qu'il n'en tient qu'à vous de juger et d'expérimenter son œuvre. Moi, je n'en suis que le témoin, mais j'ai jugé important de témoigner de ce travail. La première question que je pose à Zhu Yu est justement en rapport avec mon action 3930. Je fais un parallèle entre ces 2 dernières actions, car dans mon cas, ça implique la radioactivité. Dans son cas, ça implique une action semi-privée qui est documentée par la photographie. Donc, le phénomène d'origine est toujours invisible et le public ne peut pas nécessairement vérifier si c'est vrai. Donc, le public va souvent soupçonner une supercherie, un canular, et même si... En tout cas, dans mon cas, ce n'était pas du tout le cas et je ne crois pas que ce l'était chez Zhu Yu. Donc, ma première question, c'est en fait concernant cette problématique de ce qui est vrai, de ce qui paraît vrai, de ce qui ne le paraît pas. Vous êtes toujours à Dromotexte, à l'antenne de CKUT 90,3.
A lot of people don't want to hear about his work, don't believe that it's true. Oh. Like some people about the baby pictures said it was a montage, it was a doll or something.
对，但中国有句话就是信不信由你，就是信不信由你，就是我告诉你了，这是一个。
所以他们
不重要。
信任你。
对对对，但是我觉得后来那个东西就是真假，其实，在作品这个层面上已经不重要了。就他已经这个是一个事实，就是他去讨论这东西是真的是假的，其实不重要。
He thinks it's to him it's not actually important whether people believe it or not, if they think it's false or true, it doesn't matter because it's still sort of become a fact even if it was,
even if it was
done, you know, pretend that it's still going to make people talk about the issue.
Exactly.
It still makes a kind of image for them. They remember it. And
good. First question I want to ask him is very simple. I would like him to describe perhaps the last piece he did with the fetus and the dog. To talk more about this piece, but perhaps it's good if he gives a description first, and we can ask questions about this.
Just describe it.
Yeah, just to describe.
你能不能先说一下，就你。
我那个过程就是这么回事儿，就是我先是。
He went and talked with lots of different women. They were sort of different social status, like different professions.
Oh, so they were not only prostitutes.
So there were some, but there were all sorts of different.
跟你合作
Status,
做一个艺术作品
not just substitute. So he talked to them about this project and that he wanted to collaborate with them to do this work, which would be he would get pregnant with their child, and when the fetus had gone to about 3 or 4 months,